Oui.
On vous a un petit peu expliqué le concept.
Oui.
L'émission.
Oui.
Je vous en dis pas plus. Surprise.
Voilà.
Donc voilà, ça c'est la petite chose qu'on vous demande de
oui.
mettre sur les yeux.
Très bien, isoler. Merci.
Vous confirmez que vous ne voyez plus rien ?
Ouais.
Bah, bonne émission.
Merci.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
Notre invité a dit un jour, ce qui fait qu'une chanson dépasse les autres, c'est la grâce. J'ai toujours recherché l'émotion plus que la perfection. Voilà 50 ans que nous le suivons, que nous écoutons sa voix, ses mélodies, un demi-siècle de chansons dont les airs, parfois l'air de rien, nous ont accompagnés, marqués, fait chanter. Mais quel artiste est-il ? Alain Souchon a défini un jour sa voix de tôle ondulée. Concernant ses premières chansons, Gilbert Bécaud avait déclaré « Je n'y comprends rien, mais ça me plaît ». Serge Gainsbourg avait avoué « Je n'ai rien entendu d'aussi intéressant depuis bien longtemps ». Pour Françoise Hardy, il est un immense mélodiste qui a su s'entourer de paroliers à l'écriture originale. Et Georges Brassens de lui confier un jour « Toi, tu es un organe à rendre jaloux tous les mâles ». Maxime Le Forestier parle de ses compositions en ces mots. Il a apporté des chansons de qualité et d'une originalité insolente. Si je devais parler de ses compositions, je dirais que ce qu'il aime chez les Beatles, c'est ce que les Beatles ont emprunté à la musique classique. Plus que la rythmique, les beaux enchaînements d'accords. Ce qui le fascine dans les répertoires de Sinatra, ce sont les harmonisations magistrales. Il tient énormément à ses harmonies. C'est un grand mélodiste. Dans son nouvel album, qui s'appelle « À nos amours », il y a cette chanson « Les bassins de chlore » dans laquelle il chante « Du fond de nos bassins, on n'entend plus rien dehors. Est-ce qu'on sera plus heureux ? Faut croire. En fermant les yeux ? Faut voir. C'est justement les yeux fermés que le voici maintenant, lui qui depuis toujours chante les paroles des autres. Ce sont aujourd'hui ces mots que l'on va écouter, puisque le voici pour un entretien d'une heure
dans le noir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui à Julien Clerc. Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Comment vous sentez-vous ainsi plongé dans le noir ?
Ça va, pas de problème particulier.
Pour le moment, tout va bien.
Mm-hmm.
Quel rapport vous entretenez avec l'obscurité de la nuit ? Habituellement, vous faites quoi la nuit ?
Ça dépend, mais on va dire en ce moment qu'une période de tournée, j'ai du mal à m'endormir. Et en même temps, je suis obsédé par le nombre d'heures de sommeil, puisque pour la voix, rien d'autre, rien de mieux que le sommeil. Donc j'ai un rapport un peu compliqué avec le sommeil, et sinon, j'aime bien quand il y a du vrai noir pour dormir. Voilà à peu près comment je peux vous répondre. Je suis quand même quelqu'un de suffisamment équilibré pour se dire la nuit c'est fait pour dormir.
Vous êtes déséquilibré pour penser le contraire ?
Non, mais je veux dire, j'ai la chance de ne pas avoir, d'être assez équilibré par rapport au sommeil, par exemple.
D'accord.
Il fut un temps où, toujours par rapport à cette obsession dont je vous parle, je prenais des trucs pour m'endormir, ce qui n'était pas bon du tout, et des trucs chimiques. Maintenant, je préfère me dire, bon, bah si je me réveille, tant pis, je vais lire, et généralement, je résous le problème entre 30 minutes et une heure de lecture et je me rendors.
Tout dépend ce qu'on lit aussi. Il y a les livres somnifères à conseiller dans ce cas-là. On ne les citera pas. On va vous proposer une séquence maintenant qui s'appelle l'image du son. On va vous plonger dans un univers sonore et alors que vous êtes dans le noir, Julien Clerc, vous allez nous dire ce que vous voyez. Où vous trouvez-vous ?
Je sais pas, une gare ou pas. Une gare ou un... J'ai failli vous dire, je suis dans une ville, sur une place dans une ville moderne, mais la petite musique m'a fait penser à une gare avec une porte de train qui se ferme. Voilà.
C'est exactement ça. Est-ce qu'un quai de gare pour vous, c'est plutôt un lieu où l'on se rencontre ou un lieu où l'on se sépare? Vous voyez un peu où je m'en venais?
Oui, mais non, c'est un quai de gare. C'est un lieu pour aller prendre le train, voilà. Et moi, j'adore le train en fait. Donc, j'aime beaucoup le train. Je préfère le train à l'avion. Donc, c'est un endroit que j'aime bien, un quai de gare. Mais enfin bon, je cherche ma voiture et la voiture dans laquelle je vais monter. Et voilà, pour moi, c'est ça, un quai de gare. Ça fait partie de mon histoire personnelle parce que c'est un endroit où mes parents ont entériné leur séparation de façon tout à fait romanesque. Ça s'est passé sur un quai de gare. Mais
vous dites que votre papa avait donné rendez-vous à votre maman,
ouais.
Et elle n'est pas venue.
Elle n'est pas venue, oui.
C'est assez cinématographique. C'est réel ou c'est comme ça qu'on vous l'a raconté?
C'est comme ça qu'il me l'a raconté, mais c'était quelqu'un d'une très grande honnêteté intellectuelle et je le crois tout à fait. Mais cette histoire de quai de gare n'était qu'au bout de tout un processus de ratage, si vous voulez. Je ne sais pas dans quelle mesure il a donné ce rendez-vous. Pouvait-elle s'y rendre? Je ne sais pas. Mais on va dire que c'est, vous savez, comme on fait dans les histoires d'amour qui se termine et qu'on donne un ultimatum, quoi. Voilà. Plutôt pour s'en sortir soi-même que pour autre chose, pour être capable de mettre un point final à une histoire qui tourne mal depuis longtemps. Donc, je suppose que c'est ça. Il a donné rendez-vous. En plus, comme il habitait Vienne à l'époque, il remontait dans le train pour repartir en Autriche, quoi. Donc, elle n'est pas venue. Station waiting for the train, waiting for the train. Du coup, vous avez grandi entre deux maisons, deux ambiances, deux éducations, deux types de musique aussi. Oui, c'est une chance inouïe. Une chance inouïe qui avait ses douleurs, mais qui était... c'est dans l'avenir, plus tard que j'ai su que c'était une chance. Qui est ces deux femmes très différentes, l'une et l'autre, dans ma vie, ces deux mères, si on peut dire, puisque j'étais extrêmement petit, donc quand j'ai été confié à mon père, il n'avait pas encore d'enfant avec ma belle-mère, j'étais l'aîné, et elle m'a pris vraiment bébé, donc elle m'a élevé, puis j'allais voir ma maman pendant les week-ends, et elles étaient assez dissemblables, ces deux femmes, surtout, on va dire, dans la culture, dans le milieu duquel elles venaient. Et ma belle-mère, pour résumer, était une grande fanatique de musique classique. Donc la musique classique était omniprésente à la maison, à Bourg-Lorraine. Et puis quand j'allais chez ma mère, qui venait d'un milieu plus simple, un milieu ouvrier, j'entendais de la chanson et du jazz. Et donc j'ai été environné de musique très très tôt. Mais dans deux foyers, deux musiques différentes.
Vous dites de cette dualité qu'elle vous a beaucoup nourri.
Ah oui.
Et que si ce n'était pas arrivé, vous n'auriez pas eu ce trop-plein d'émotions. Et que du coup, c'est peut-être ça qui a contribué aussi à vous rendre, j'allais dire, artiste.
Sûrement. Et puis en plus, ça m'a même façonné, j'ai envie de dire, comme homme. Parce que vraisemblablement, le fait que je n'ai pas été avec ma mère dans ces trois premières années dont on dit qu'elles sont très importantes entre le nourrisson et le jeune bébé. Et sa maman ont sûrement dû être importantes. Ce que j'ai ressenti, un phénomène d'abandon sans doute, que je me suis jamais avoué sûrement. Et en même temps, ça faisait que les moments passés avec ma mère étaient... Évidemment, on était véritablement ensemble pendant 2 jours, pendant le week-end, dans une ambiance assez cocoon, on sortait peu. Elle avait la télé, ce qu'il n'y avait pas chez mon père, puisqu'on n'avait pas le droit, il ne tenait pas à voir la télévision. Donc, alors que ma mère, elle était, à mon sens, une des premières à s'acheter la télé. Donc, c'était vraiment deux milieux complètement différents, deux milieux sociaux, deux milieux politiques différents. Ça m'a véritablement façonné, parce que mon rapport à la politique vient directement de là aussi.
Vous avez pris des cours de piano à l'âge de 6 ans, et en fin d'année, vous avez auditionné, je crois, avec ce morceau-là. Vous avez des souvenirs ?
Oui, bien sûr, j'ai le souvenir d'une torture, d'un très grand trac, et d'avoir tout à fait raté le truc, oui, d'être arrêté au milieu.
Enfin, ah oui.
C'était pas, j'étais sans doute pas un de ses meilleurs élèves, Mademoiselle Savigny. C'est drôle, car l'autre jour, à la sortie du spectacle, il y avait quelqu'un qui était ami avec elle, de nos jours, et qui m'a dit, Mademoiselle Savigny, passe le bonjour, je sais plus, ouais. Elle habite dans la banlieue parisienne, je crois. Elle s'est donné beaucoup de mal, mais je pense que c'est ces leçons de piano, là aussi, elles ont été très fondatrices, même si je luttais contre, que je continuais de le faire pour faire plaisir à ma mère, enfin ma deuxième mère, et un peu aussi à ma maman, puisque elles avaient pris, pour le coup, elles ne se voyaient jamais, mais cette décision-là, qui était une décision importante, avait été prise de concert, si j'ose dire. Et donc, ça a été fondateur, parce que dès que j'ai pu arrêter de faire du piano, mais ça m'a quand même pris quelques années, je voulais décevoir personne, mais en même temps j'en avais marre. Le jour où j'ai voulu revenir au piano, j'avais quand même ces espèces de bases là. La lettre à Élise, qui est une merveilleuse petite mélodie comme ça, Beethoven, que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé. Oui, tout ça a été fondateur, bien sûr.
Vous êtes dans le noir, Julien Clerc, aujourd'hui. On va stimuler immédiatement, si vous le voulez bien, votre sens du toucher.
Voilà.
Je viens de poser juste devant vos mains un objet. Mmh. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Ça ressemble à quoi ? Expliquez-nous. C'est dur, c'est léger, c'est la forme. Là, vous le tripotez, mais dites-nous un peu ce que vous ressentez.
Je sais pas, je vois pas ce que ça peut être. Est-ce que c'est un...
C'est lourd, c'est léger, c'est...
Non, c'est très léger, c'est un truc qui peut se mettre absolument autour de la tête, je suppose, avec une...
Ah, comme un bandana ou un foulard?
Ouais, et puis avec un truc, du ruban, enfin du tissu qui... Ah non, ah oui, je sais ce que c'est un truc de femme.
Oui, c'est un truc de... C'est un clin d'œil à...
Oui, non, c'est un bas, c'est un bas, bien sûr.
Un bas nylon.
Un bas nylon, bien sûr, oui. C'est un bas, oui.
Pas facile, les yeux fermés, de reconnaître un bas nylon. On avait le choix, on aurait pu vous donner une jupe en laine, des petits souliers, ou des poissons morts. Ce qui était un peu moins charmant, ce serait peut-être pour le goût.
Non, mais c'est un bas, j'aime beaucoup les bas, évidemment. J'adore quand une femme gaine ses jambes avec des bas.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Lorsque vous avez appris à vos parents que vous vouliez être chanteur, votre mère vous a dit « Tu sais, des Bécaud et des Brassens, s'il n'y en a qu'un ».
Oui,
vrai. Vous lui avez répondu quoi ?
Moi, je lui ai dit, il n'y en aura qu'un de moi. Mais c'est vrai que ça l'inquiétait beaucoup, ma mère. C'est normal. Elle arrivait d'un milieu où, bien qu'elle soit grande fan de chansons, ça l'inquiétait beaucoup que je me lance là-dedans. Elle aurait préféré que je fasse un métier, entre guillemets, sérieux. Et étrangement, mon père qui avait fait ses études brillantes, qui étaient normaliens, qui étaient un puits de culture. Bizarrement, il a eu une réaction plus tolérante, alors qu'il avait une image moins tolérante que ma mère. C'est bizarre. Et il était un peu déçu, mais en même temps j'étais l'aîné, en même temps j'étais le seul de ce premier lit, en même temps mes frères et sœurs en sont d'accord, j'étais le préféré. Donc il m'a dit un truc qui était très bien d'ailleurs. Il m'a dit écoute, j'étais pas brillant dans mes études, mais j'étais très fumiste.
On faisait illusion, il paraît.
Voilà, je passais au ras de la barre, j'ai jamais redoublé, etc. Et j'avais forcément des matières où j'étais un peu meilleur que dans les autres. Vu que j'étais fumiste, je ne travaillais pas trop, donc évidemment des matières où je m'en sortais sans trop travailler, qui étaient les langues vivantes, l'histoire, étrangement... le thème et la version latine, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ça, c'est des langues, quand même. Et donc, il m'a dit, écoute, ne perds pas tes langues vivantes, ça serait dommage. Et en fait, je l'ai écouté. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des anglo-saxons dans ma vie. Et voilà, ça m'a suivi, ça. Et je pense avoir pas trop parlé anglais plutôt mieux que la moyenne de nos concitoyens qui ne le parlent d'ailleurs pas très bien.
On se retrouve, Julien Clerc, toujours dans le noir après vous avoir écouté, retour en 1968, votre premier album, des paroles signées par un certain Étienne Rodagil, voici La Cavalerie.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Moi, j'entends la frabarabarabara cavalerie. Moi, je pense à la frabarabarabara cavalerie. Un jour, je prendrai la route, mais aille coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage, et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Moi, je pense à la rabarabarabara cavalerie. Moi, je pense à la rabarabarabara cavalerie. Moi, je pense à la
rabarabarabara. Dans le noir. Dans le noir. À la lueur d'une voix.
À la lueur de la voix de Julien Clerc aujourd'hui dans le noir. Julien Clerc, la légende raconte que durant le printemps 1967, vous étiez dans le quartier de la Sorbonne, dans un café parisien qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle L'Écritoire. Mmh. Vous êtes levé, vous avez demandé au client du bar, y aurait-il quelqu'un ici capable de m'écrire des paroles de chansons, et dans votre dos, une voix répondu, oui, moi, c'était la voix d'Étienne Rodagil. C'est un peu vrai cette histoire?
Ah, c'était complètement vrai. C'est une chance incroyable. Mais bon, j'écrivais de la musique, je connaissais personne évidemment dans ce métier. Je voyais bien qu'il fallait des paroles sur ma musique. Donc ça aurait pu être, et comme j'étais tellement prêt à avoir ma musique enregistrée sur un disque, imaginez s'il y avait été quelqu'un de moindre talent que Rodagil, mais surtout de moins original que lui. Donc on était tous là, sans doute que je le connaissais de vue, vous voyez ce que je veux dire, d'agir sans doute. C'était un peu toujours les mêmes personnes qui étaient là, puis le bistrot se vidait aux heures de cours. Et puis il se remplissait après, lors du déjeuner, etc., etc. Les gens qui allaient à côté à la Sorbonne, moi j'étais en anglais, j'avais des cours là, j'avais aussi des cours à Sancier. Mais enfin, je passais beaucoup de temps dans ce bistrot. Et donc c'est une chance inouïe que ce soit lui qui ait répondu, quoi.
Et qu'il ait répondu, il aurait pu être là ne pas répondre.
C'est incroyable, oui.
Personnage complexe, Étienne Radagil, vous dites qu'il se montrait possessif à votre égard, un peu comme un mari jaloux, sauf qu'il ne se gênait pas pour aller voir lui ailleurs. Et puis des fois très critique, quand j'entends cœur de rocker, ça me fait vomir.
Ouais, évidemment.
Disait-il.
Oui, bien sûr. Il avait une idée qui était extrêmement simple. Je lui ai dit un jour, mais écoute, tu peux pas nier que telle chanson, c'est bien, écrite avec un autre. Mmh. Il m'a dit, oui, mais enfin, c'est bien joli, mais tout ça, c'est pas toi. Donc,
c'était lui pour lui.
En tout cas, c'était nous.
Oui.
Voilà. Il y avait une petite place pour Momo Valet, pas trop grande quand même. Mais voilà, c'était donc le tout est résumé dans cette phrase-là. Puis après, il a mis un peu, quand on s'est retrouvé au moment de Utile, où on a réalisé ce qu'il souhaitait depuis le début, c'est-à-dire que nous soyons en tête à tête dans un disque, où n'intervienne absolument aucun autre auteur. Il a, avec un sens aigu qu'il avait de la dialectique, il a, pour les médias, en particulier dans une émission avec Bernard Pivot, où il a posé les bases de la nouvelle, on va dire, de la nouvelle ligne politique, c'est-à-dire, Julien Clerc, ben, c'est comme la Révolution française, on prend tout ou on prend rien. Donc on prend tout, la révolution c'est comme ça, il y a des moments qui sont pas beaux, ou il y a d'autres moments qui sont fondateurs, qui sont beaux, mais il faut tout accepter, et bien là c'était pareil. Donc c'était sa façon, on va dire, d'adouber le travail fait avec les autres entre-temps.
Vous avez travaillé avec beaucoup de paroliers, je crois que c'est Bertrand Delabaye, votre agent, qui vous a présenté... Votre ex-agent, pardon, qui vous a présenté Jean-Loup Dabadie. L'idée était d'avoir des chansons avec des paroles un peu plus simples, c'est ça, plus claires, plus accessibles,
un peu plus grand public. L'idée était de... Oui, certainement, certainement.
Et de dire « je »
pour
la première fois.
Oui, je pense que le brief de départ, ça a été peut-être bien lui faire dire « fais-lui dire je ». Et puis, fais-lui dire « je t'aime » éventuellement, ce qui n'était très peu courant avec Étienne. Ou quand c'était avec Étienne, c'était suivi d'un adjectif. Il y en a une chanson où il y a énormément de « je t'aime », mais c'est « Les fleurs des gares ». Mais il y a un adjectif, « je t'aime crème »,« je t'aime noir », »,« je t'aime jusqu'au dernier comptoir », etc. Donc, oui, Jean-Loup, fort de son, on va dire, de son talent... Pour le talent des grands écrivains de chansons populaires qui, quand ils touchent la cible, la touchent en plein centre, si vous voulez. Et il y en a un autre comme ça, c'est Barbelivien. Il écrit beaucoup, mais tout d'un coup, quand il tombe juste, il tombe très très juste. Voilà.
Ils ont mis des mots sur vos musiques, des paroles à vos chansons. Voici quelques-uns des auteurs qui ont écrit pour vous, Julien Clerc.
Sur son rapport aux auteurs, ce qui est rigolo, c'est que moi, sur le texte que je lui avais donné, il y avait une partie qui voulait que je retravaille. Et je lui ai demandé s'il avait une idée de la façon dont il voulait que je retravaille. Il m'a dit, vous savez, Alex, moi, j'ai jamais aucune idée. Je pense que ce garçon est soit très modeste, soit très menteur, parce que il faut quand même avoir une espèce de flair ou une espèce d'idée de ce qui peut lui correspondre pour avoir réussi depuis le début de s'entourer des gens qui ont su lui écrire les textes qu'ils lui ont écrits.
Tiens, vous m'avez appelé Julien, vous semblez me connaître bien. Mais votre visage ne me dit rien.
J'ai eu la chance d'arriver et d'imposer des gens qui étaient avec moi. Deux personnes qui m'écrivent des paroles. Il y en a un qui s'appelle Étienne Radagil et l'autre qui s'appelle Maurice Vallet.
Je me suis dit, ça pourrait lui plaire et pourrait la ressentir. Non pas seulement la chanter, il faut la ressentir, la chanson.
Les souvenirs sont un peu comme ces voyages que l'on fait seul et sans partage, au fil des ans, au cours des âges, les souvenirs qui s'expriment fort. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi.
Je suis le fils unique d'un papa et d'une maman qui étaient fous de lecture, qui lisaient beaucoup, mon père écrivait. Ils étaient, maman surtout, impitoyables. Par rapport aux fautes de langage, aux fautes de français, ce sont eux les premiers qui m'ont fait respecter et aimer cette langue.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé.
Ami, ami, contre tous les coups du sort de la journée, on sort à deux.
Au refrain, je dis il faut des ronds, il faut des courbes, des marchands de marrons rue de Courbe, il faut des ballons, des cerceaux et les seins de Sophie Marceau.
Il faut des ronds, il faut des ronds, il faut des courbes, il faut des courbes, des marchands de marrons,
des marchands de marrons
rue de Courbe. Des ballons,
des ballons,
des cerceaux et les seins de Sophie Marceau.
La prochaine fois, je vais faire une nouvelle version. Ça sera des seins de Gloria Lasso, qui non seulement avait de l'humour, mais en plus elle est morte.
Chez lui, c'est son sérieux. Et puis j'aime bien sa pudeur.
Si j'étais elle, je saurais dire tant de ces choses, tant de ces mots qu'elle ne dit pas, de sa voix douce.
Le bonheur d'être triste.
En frémir. Si j'étais elle, je ne voudrais pas de tous ces sons.
Moi, je suis fort de voix hein, quand je parle de ma maman, ma famille en général. Mais en tout cas, je les intègre, moi, mais ma famille, tout ce que je vis, ça, c'est clair. Dès que je peux, j'essaye de moins de ramener ma famille avec moi. Et c'est, je comprends Julien, c'est hyper important de se sentir aussi bien entouré. Quoi.
Sur un mouchoir en lin, elle brode le prénom de l'enfant qui matin a quitté la maison.
Il peut choisir tous les paroliers qu'il veut. C'est Julien, ses chansons, c'est lui.
Je veux m'asseoir devant ma porte, à regarder couler les ans, et laisser venir encore ces choses qui me semblaient mortes et qui revivent avec le temps.
C'est Julien, ses chansons, c'est lui.
Quelques chansons et quelques voix de vos auteurs, vous avez reconnu, j'imagine.
Oui, oui, j'ai reconnu tout le monde. Je vois que Luc n'était pas en France à ce moment-là, Plamondon. Mais sinon, je crois qu'il y a beaucoup de monde, oui, bien sûr.
Alex Baupin, Charles Aznavour, Jean-Luc Dabadie, oui. Maxime Le Forestier, ouais. entre autres Carla Bruni, Vianney, oui. Françoise Hardy. Et on aurait pu, ça aurait pu durer des heures quasiment ce montage, oui. du nombre d'auteurs que vous avez, oui. avec lesquels vous avez collaboré, et finalement, assez peu de femmes.
Bah, oui, mais bon, d'abord, il faut trouver une femme qui écrive des mots que puisse chanter un homme. Vous auriez pu interroger Marie Bastide, qui est présente sur mmh. le dernier album, et qui est un auteur très fin, très, très bon auteur. Mais encore faut-il qu'un homme puisse le chanter. Par exemple, ma copine Véronique Sanson, je ne suis pas certain qu'elle écrive des textes qu'un homme peut chanter. Alors que Françoise ou que Carla, c'est tout à fait chantable par tout le monde.
Ça enfin, tient,
hommes, et, hommes et femmes.
Ça tient à quoi?
Ah, oh, je sais pas.
Faudrait leur demander à elle.
Oui, non, je sais pas. Moi, je réagis franchement à l'instinct et au plaisir de chanter. On sait très bien que sur un album, il y aura peu de chansons connues. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la règle du jeu, sauf les gens qui achèteront l'album. Et donc, pour les chansons qui sont exposables ou exposées, il faut essayer de faire un album, je ne dis pas avec 12 singles, mais quand même, il faut être très très difficile sur le choix. Donc, il faut en écouter beaucoup, en écrire beaucoup, et puis après, il faut être absolument... Il faut être sans pitié au moment d'en enlever certaines.
On a entendu tout à l'heure la voix de Françoise Hardy, avec qui vous avez collaboré sur « Fais-moi une place mm-hmm. ». Titre qui a été un gros succès, que les Comatines, groupe américain des années mm-hmm. 80, ont repris. Mm-hmm. Avec les Comatines, la chanson est devenue « A Place for Me ».
Je suis dans le noir.
Dans le noir. Alexandre Lemierre.
On parlait tout à l'heure des paroliers avec lesquels vous avez collaboré. Il y a eu aussi Gainsbourg.
Oui, mais enfin...
Pas concluant.
Non, mais d'abord, il avait été gentil parce que généralement, il faisait des disques entiers. Donc, j'avais pris ça pour une preuve quand même
d'amitié,
de respect de mon travail. Et non, mais il y en a quand même une qui était bien gaie, qui s'appelait Mango, que j'aime bien refaire de temps en temps sur scène. Petite liane, tu danses au gré du vent, moi le macaque, je te suis en rêvant. Ça, c'était pas mal, franchement.
Dans la blanche écume, Varec, sur la plage de Malibu.
Dans le noir.
On va tester, si vous voulez bien, votre goût.
J'ai senti ça, oui. C'est le goût ou l'odeur?
Bah, tout à l'heure, ce sera l'odeur, mais c'est amusant parce qu'en effet, j'ai apporté quelque chose dans le studio. Je vous tends une fourchette. Je vais vous demander de me donner votre main. Voilà. Hop. Là, c'est une fourchette. Au bout de la fourchette, il y a un aliment qui est tiède. Je vous laisse le goûter et nous dire si c'est bon.
C'est de l'acran.
Voilà. Je vous reprends la fourchette. Acras de morue, comment vous le trouvez?
Ça va. Bon. Il est bon et puis il est un peu pimenté, ce qui est bon.
Accra, bien sûr, clin d'œil à une partie de vos origines.
Oui, bien sûr, les Antilles, c'est une partie de mes origines importantes parce que, d'abord, c'était mon grand-père que j'adorais, mon grand-père maternel.
Alexandre Merlot.
Ouais. Et,
né en Guadeloupe.
Oui, né en Guadeloupe. Il a dû venir en métropole, je sais pas très bien quand, peut-être bien aux alentours de la guerre de 14-18, juste avant ou juste après. Et puis après, il est resté, puis il était ouvrier au sol, dans l'aviation. Et puis, ça m'a beaucoup fait fantasmer, cette histoire d'Antilles. Mmh. Et comme je ne racontais pas dans un foyer ce qui se passait dans l'autre, la femme de mon père, ma mère, a été très étonnée quand elle a entendu parler de ça dans mes promotions. Elle a dit, mais il parlait jamais de ça à la maison. Jamais il parlait de son truc d'Antilles. Alors que c'était très important pour moi, en fait. Et ça m'a fait beaucoup, fantasmer, rêver. J'y suis allé beaucoup plus tard. J'y suis allé à l'âge de 21 ou 22 ans quand Salut les copains a décidé de m'emmener là-bas pour faire des photos. Et, où j'ai été d'ailleurs partiellement déçu par ce voyage, parce que j'avais tellement fantasmé cet endroit que j'ai compris en arrivant tout de suite qu'à la fois mon corps était heureux de se trouver dans ces latitudes, mais en même temps j'étais un enfant des pays tempérés, c'était une partie de moi, mais une partie très importante. J'ai pu vérifier ça après, plus tard, quand je suis parti en Afrique, quand je suis arrivé sur l'île de Gorée, etc. Le truc de... J'avais compris très jeune, très 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 tôt, que si on arrivait des Antilles et qu'on avait cette couleur-là, je parle de mon grand-père, c'est qu'on était forcément descendants d'esclaves. C'était historique, ça. Alors, c'est que ça a toujours été une chose très importante pour moi, une cause très importante. Et... quand beaucoup plus tard, je suis allé visiter le musée de la marine à Londres, qui est merveilleux, qui se trouve à Greenwich en fait. Il faudrait plusieurs jours pour le visiter. Et quand j'ai vu, il y a une salle pour les enfants, comme souvent les musées anglais, c'est très bien foutu pour les enfants. Il y a une salle de quelques grandes célébrités anglaises de la mer. Alors vous avez évidemment Nelson, vous avez évidemment un ou deux corsaires, et vous avez ce type qui s'appelle Olouda Ekiano, qui était un esclave lui-même, qui a passé beaucoup sa vie sur les bateaux, parce qu'il a appartenu à un officier anglais pour commencer. Après, il a été vendu à un type qui faisait du commerce entre les îles. Entre les îles, justement, Guadeloupe, Martinique et les îles anglaises. Et comme il était intelligent, il l'a mis comme un espèce de régisseur. En lui disant, j'ai lu tout ça parce que dès que je suis sorti, évidemment, du musée, je me suis précipité sur son livre de mémoire. Il a écrit un livre formidable, ce Holoda et Kiano. C'est un des premiers livres que j'ai lu complètement en anglais. Et donc, c'était formidable parce que ça parlait de ce monde-là, ça parlait de la vie d'un esclave. Et donc, son maître lui a dit qu'un jour, qu'il avait le droit en gérant ses bateaux de commerce, qu'il avait le droit de faire lui-même un petit peu de commerce, où il se fait évidemment allègrement voler au coin de toutes les îles où il passe dès qu'il fait affaire avec un blanc, bien sûr. Mais il arrive quand même à mettre un peu d'argent de côté. Et un peu contraint et forcé, il mettra du temps, mais enfin, il va quand même lui rendre sa liberté. Parce qu'il lui avait dit, évidemment, je te rendrai ta liberté si tu te rachètes avec l'argent que tu auras gagné. Et après, il est rentré à Londres et il a pu écrire ses mémoires, on peut dire, sponsorisées par des grands bourgeois, par des aristocrates anglais. Il a épousé une Anglaise. Il est mort, il a eu deux enfants. Il est mort assez jeune parce que malgré tout, ce n'était pas une vie facile qu'il avait eue toute son enfance et toute sa jeunesse et une partie de sa vie d'adulte. Mais il a écrit ses livres et il a fait des tournées, une tournée de conférences en Angleterre pour combattre l'idée de l'esclavage. Et évidemment que ce problème, on a entendu Aznavour tout à l'heure, je cite beaucoup ça ces derniers temps, mais sur son dernier album, il y avait une chanson merveilleuse, parce que Charles, c'est quelqu'un qui travaille toujours, toujours, tous les jours, qui écrit, il m'a dit, au moins deux ou trois chansons par jour. Une chanson qui s'appelle « Ce que l'homme fait à l'homme ». Évidemment que l'esclavage est un des grands mystères de l'histoire, horreur et mystère de l'histoire de l'humanité, pour moi, en tout cas, voilà.
Julien Clerc, votre nouvel album s'appelle À nos amours. Les arrangements sont de Calogero, des paroles entre autres de Vianney, Maxime Le Forestier, Didier Barbelivien, Marc Lavoine, Carla Bruni, Brigitte Fontaine, Vincent Ravalec. L'album s'ouvre avec cette chanson qui s'appelle Je t'aime, etc. avec des paroles de Pierre-Yves Lebert.
Je sais, c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais, c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La, 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 la. Je sais, c'est un peu lourd, mais j'ai si peur que d'illuminer mon espace, tu te lasses. Mon amour, tu sais, ça chante en moi comme un oiseau qui me tonitruque, il fait beau près de toi. Je t'aime, etc. Je t'aime, je t'aime, etc. Des beaux jours, mon Dieu, qu'ils passent vite. Et c'est déjà le quai de gare où l'on se quitte. Ton départ, mon amour, je ne pourrais plus le dire, mais s'il te plaît, me permets-tu de te l'écrire, et qu'un jour on
Mon amour, je sais que tu dois fuir, mais mon amour, prenons soin de nos souvenirs. N'oublie pas.
Dans le noir, on y voit plus clair et aujourd'hui, on y voit un peu plus Julien Clerc, qui a dit un jour que la voix touche à la psychologie. Vous en êtes convaincu?
Ah bah oui.
Que dit votre voix de vous?
Non, mais c'est pas. Je ne disais pas que c'était que ça pouvait
révéler quelque chose.
Révéler quelque chose de quelqu'un. La voix, c'est un don. Après, tout dépend de ce qu'on en fait cette voix. Quand on l'a. Il faut être conscient que c'est un don et que, surtout, particulièrement dans notre métier, où on n'est pas, on est censé chanter correctement, mais on n'est pas comme des artistes lyriques à qui on demande souvent l'impossible. Il faut être très au fait de l'art lyrique pour reconnaître les grands ténors. Moi, je suis pas, bon, j'en reconnais qu'un, qui est Pavarotti, parce qu'il a, il avait pour moi un truc en plus des autres. Bon, que je reconnais, en tout cas. En tout cas, c'est un don, c'est un cadeau, même, j'ai envie de dire. Et nous, dans notre métier, on nous demande d'avoir un son. J'ai eu la chance d'avoir un son. Après, si on décide, comme c'était mon cas, le petit pari ou le grand pari que je m'étais fait avec moi-même, de durer, dans mon cas, durer, c'était avoir, être toujours capable de composer des mélodies et deux, surtout, être capable de les chanter bien. Et pour continuer de bien chanter, eh ben, il faut travailler. Alors, pourquoi je dis que c'est psychologique? Parce que le travail sur la voix est aussi un travail sur soi. C'est pour ça que je dis ça. Et c'est d'ailleurs un travail absolument passionnant, qui vous dit beaucoup de choses sur vous-même, quand vous le pratiquez. Mais je ne pense pas qu'une voix puisse vous dire qui est la personne qui l'emploie. D'autant plus que souvent, la voix chantée est différente de la voix parlée. Et que tout d'un coup, il y a une autre personnalité qui se fait jour quand l'homme de tous les jours, que le chanteur, ouvre la voix tout d'un coup, ouvre la bouche, et qu'il y a cette voix qui sort, et qui parfois est inattendue, ne va pas avec le physique, vous voyez. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose d'assez mystérieux, où le cerveau rentre très très sérieusement en ligne de compte. Il est évident même que quand on veut progresser, ou au moins ne pas perdre, mais moi je trouve qu'on peut progresser à tout âge. Il faut envoyer au cerveau des messages qu'il va fixer et qui après vous aideront, en particulier sur les notes que vous pensez être difficiles. C'est en travaillant que, à force de faire certains exercices, que le cerveau imprime que cette note n'est pas si difficile que ça. Par exemple.
Dans le noir.
Dans quelques instants, vous allez pouvoir sortir du noir. Je vais juste vous faire tester votre odorat, vous faire sentir quelque chose que je vais placer sous votre nez. On va se respirer fort. C'est pas facile.
Non, c'est de l'alcool, mais.
Oui, ah ben, un peu. Ben, je vous pose sur votre. Juste d'accord. Devant vous, il y a un verre. Dans d'accord. Ce cas-là, d'accord. Je vous laisse le goûter si vous voulez.
Ah oui, je connais ça, mais...
C'est très légèrement alcoolisé.
Oui, c'est du cidre,
voilà.
Je crois.
Vous en avez fait à une époque?
J'ai fait du cidre, oui. J'avais la chance d'avoir un voisin qui n'était pas très loin, qui était un authentique obreau campagnard à l'ancienne. Et qui m'a, évidemment, amoureux de sa région. Moi, j'étais dans une région qui s'appelle la Puisaye, qui est le début de la Bourgogne. C'est le pays de l'écrivain Colette, qui est un pays de bois et d'étang. Un très joli pays pour un Parisien qui vient s'installer. Et qui, évidemment, était une mémoire vivante de ce pays. Et qui m'avait, entre autres, comme j'avais beaucoup de terres, beaucoup d'arbres, beaucoup de prairies, etc., et d'étangs, d'ailleurs, et qui m'avait dit comment faire le cidre avec mes propres pommes, évidemment, j'étais ravi.
Il était bon, votre cidre ?
Il était pas mauvais, je pense. Il était sûrement moins bon que celui des Bretons, mais il était...
buvable.
Il était bon, quand même.
Juste avant de nous quitter, Julien Clerc, voici le questionnaire Ombre et Lumière de Dans le Noir. Quelle est la dernière fois où vous avez broyé du noir? C'était quand et pourquoi?
Je ne broie pas souvent du noir, vous savez. Ma femme dit qu'il ne faut pas parler devant moi d'une maladie, par exemple, d'une dépression, parce qu'elle prétend que je ne comprends pas ce que c'est. Voilà.
L'idée la plus lumineuse que vous ayez eue au cours de votre vie?
Je pense que l'idée la plus lumineuse que j'ai fait complètement, c'est une idée quand même, mais n'arrivant pas à reproduire à l'oreille quelque chose que j'aimais, au piano, alors je pense que l'idée lumineuse, ça a été de se dire, eh bien, pourquoi ne pas essayer de faire sa propre musique?
Comment vivez-vous avec votre part d'ombre?
Je pense que j'ai eu de la chance dans la vie. J'ai à la fois, je vous ai parlé tout à l'heure d'instinct, j'ai essayé de la réduire, d'abord en essayant de la comprendre, si j'en ai une, d'abord. Mais je dois bien en avoir une, tout le monde en a. Mais en comprenant d'où elle venait et ce que c'était. C'est ce qui fait que j'ai jamais eu besoin d'aller voir, par exemple, un psy. J'ai essayé de penser, en fait, de réfléchir à ce qui éventuellement me posait problème.
Que vous apporte la lumière des projecteurs?
Certainement beaucoup. Il y a, évidemment, je ne ressentirai jamais ce que j'ai ressenti la première fois. Parce que la première fois, c'était comme être jeté au milieu d'un truc aveuglant. Et puis voilà, j'ai chanté mes trois chansons, c'était en première partie d'Adamo, j'ai chanté mes trois chansons en apnée et je suis vite sorti. Et maintenant, j'ai conscience de ce que c'est que les projecteurs et d'éventuellement comment les utiliser. Je ne suis pas Marlène Dietrich, dont on dit qu'elle réglait toutes ses lumières, mais je sens quand même à l'intensité sur moi, en particulier sur mon visage, je peux sentir quand c'est bien ou moyen.
Selon vous, mourir, c'est atteindre la lumière au bout du tunnel ou se retrouver dans le noir à tout jamais?
Sans doute se retrouver dans le noir à tout jamais.
Qu'aimez-vous faire le plus dans l'obscurité?
Ce que j'aime faire le plus dans l'obscurité, c'est dormir. Hein.
Et qu'aimez-vous faire le plus en pleine lumière?
Chanter.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Je vous laisse sortir du noir en retirant votre bandeau, Julien Clerc, après une heure passée dans l'obscurité.
Bonjour.
Bonjour, nous nous découvrons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
Je rappelle que vous êtes en concert tout au long de l'année, sacrée tournée jusqu'à fin 2018 et à plusieurs reprises en Suisse. Vous passerez par Genève.
Avec des spectacles différents en plus, parce que c'est ce que j'ai voulu dans cette tournée-là, c'est que selon la taille des salles...
Vous vous adaptez?
Je m'adapte avec une formation musicale différente. Et c'est très amusant à faire parce que le concert n'est pas tout à fait le même quand même. Et je tenais beaucoup à ça cette année, de faire une tournée longue où je puisse m'exprimer dans différents endroits et des scènes de tailles différentes.
Votre nouvel album s'appelle À nos amours et pour trouver toutes vos dates de concert, il suffit de taper sur julienclerc.com. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté Dans le Noir aujourd'hui avec Julien Clerc. L'émission a été réalisée par Alexandre Lemierre et la programmation musicale de François Piton. Si vous souhaitez réécouter ce programme, rendez-vous sur rts.ch. Très bon week-end à l'écoute de la première. On se retrouve la semaine prochaine, samedi à partir de 15h. Nous mettrons dans le noir l'écrivain, dramaturge et cinéaste Éric-Emmanuel Schmitt. Vous écoutez la première, il est 16h.